La question du jour sur l'impuissance diplomatique des pays arabes, elle fait suite notamment à ce que l'on vient d'entendre et au sujet de ces protestations formelles et timides après la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État hébreu, après l'annonce donc de Donald Trump. Pourquoi y a-t-il eu si peu de protestations? Pourquoi ce concert de protestations s'est-il fait si faiblement entendre? Pour en parler, nous sommes en compagnie de deux chercheuses. Laurence Touer, bonjour. Vous êtes chercheuse au CERI, vous êtes spécialiste des monarchies du Golfe, rédactrice en chef de la revue Critique Internationale, et vous avez notamment publié Sunnite et Chiite, histoire politique d'une discorde. À côté de vous, Sophie Bessis, chercheuse associée à l'IRIS, historienne, essayiste. Vous avez notamment publié La double impasse aux éditions La Découverte. Et si nous avons choisi également de consacrer à ce thème les matins du jour, c'est tout simplement parce que cela fait exactement 14 ans. C'était en décembre 2003 que Saddam Hussein fut arrêté. Écoutez.
Il est 20h hier soir en Irak lorsque les caméras de CNN filment le début de l'opération Aube Rouge. 600 soldats des forces spéciales américaines, appuyés par des Peshmerga kurdes, encerclent une ferme isolée à Al-Daour, près de Tikrit, au nord de Bagdad. Selon des informateurs de l'armée américaine, la dernière cache de Saddam Hussein. Les GIs pénètrent dans le bâtiment et cueillent l'ex-raïs sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré.
Il y avait une sorte de trou à rats dont l'entrée était cachée par des briques et des ordures. Après avoir ouvert l'entrée, nous avons poursuivi nos recherches et découvert Saddam Hussein qui se cachait au fond du trou.
Selon l'état-major américain, l'homme se savait traqué, ne pouvait pas se déplacer et ne songeait plus à se défendre. Seuls deux gardes du corps assuraient sa protection.
Sophie Bessis, je ne vais pas vous demander ce qui s'est passé depuis 14 ans, mais enfin, la date est importante. Quelles sont les principales étapes de cette impuissance diplomatique à laquelle on assiste? Bon, tout d'abord, l'échec des entreprises occidentales et des interventions avec, évidemment, la situation terrible en Irak.
Bien entendu, l'échec des interventions occidentales, je ne dirais pas tellement leur échec, mais le fait que depuis plus d'un siècle, remontons plus haut que 2003, les interventions occidentales ont toujours fait partie des problèmes du Moyen-Orient et pas des solutions apportées aux problèmes du Moyen-Orient. On peut remonter assez loin dans l'histoire pour démontrer cela. En 2003, vous le savez très bien, l'invasion de l'Irak a été une invasion idéologique presque, dirais-je. Bon, bien entendu, vous avez tous les problèmes qu'il ne faut pas oublier, qui sont les problèmes énergétiques, qui sont les problèmes pétroliers, les questions d'approvisionnement, et la guerre de 1991 était due à cela, mais c'est une guerre idéologique, vous savez, menée aussi par la partie néoconservatrice des idéologues américains, qui est la reconstruction autoritaire de la démocratie. Bon, le nation building, la reconstruction autoritaire de la démocratie. Et ça montrait évidemment une faillite totale, puisque la guerre d'Irak de 2003 a plongé la région dans le chaos, dans un chaos dont elle ne s'est pas sortie et qui, au contraire, s'est aggravé. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on peut constater ce que vous appelez l'impuissance diplomatique du monde arabe aujourd'hui. Moi, je ne l'appellerai pas comme ça, l'impuissance diplomatique. Je dirais que il ne s'agit pas tant d'impuissance diplomatique devant la décision prise par Trump de transférer la capitale, de transférer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Il s'agit, dans ce cas d'espèce, du fait que la Palestine n'est pas une priorité des grands pays arabes. Donc effectivement, ils menacent, ils font une protestation de forme, mais leurs priorités sont bien ailleurs. Donc bon, la question de la Palestine, on proteste aujourd'hui parce qu'il faut protester. Mais donc je ne parlerai pas d'impuissance. Il s'agit de choix.
Laurence Touer, votre point de vue à ce sujet, impuissance diplomatique des pays arabes, 14 ans de décomposition, a-t-on atteint un stade maximal dans la décomposition ou bien peut-on imaginer que le monde arabe s'enfonce encore dans les turpitudes ?
En fait, la raison pour laquelle la date de 2003 que vous rappelez ce matin est importante, c'est que ça marque l'ouverture, ou plutôt la réouverture d'une nouvelle ligne de fracture, en fait, qui marginalise du coup la question du conflit israélo-palestinien. C'est la fracture entre, on va dire, sunnites et chiites, et surtout entre l'Iran, son allié arabe qui est la Syrie, son seul allié arabe qui est la Syrie, et puis grosso modo l'Arabie Saoudite, les pays arabes qui sont dominés par des sunnites, qui voient avec effroi les chiites arriver au pouvoir à Bagdad, hein, qui était majoritaire en Irak, et qui surtout s'engagent loin d'un processus de démocratisation dans en fait une revanche après des décennies de marginalisation, de discrimination et de massacres de masse dont ils ont été victimes sous Saddam Hussein notamment. Et donc ils voient au fond les pays sunnites de la région, comment cette arrivée des chiites à Bagdad eh bien, ouvre un boulevard à l'Iran.
Pourquoi ce clivage s'est-il accru en 14 ans, ce clivage entre sunnites et chiites? Pourquoi aujourd'hui cela apparaît-il comme une évidence alors qu'il y a peut-être 14 ans, ça l'était beaucoup moins?
Parce que pour la plupart des sunnites, derrière le chiisme se cache l'Iran et les ambitions hégémoniques de l'Iran. Les sunnites et les arabes en général pensent que l'Iran se considère comme une puissance qui a un rôle à jouer et pensent que l'Iran utilise le chiisme pour étendre son réseau d'influence, que l'Iran fait très très largement en fait depuis le XVIe siècle et qu'a fait sous tous les régimes, y compris
avec une certaine réussite aujourd'hui.
Tout à fait. Tout à fait, avec une certaine réussite, même si le monde chiite n'est pas du tout unifié derrière l'Iran, s'il y a des fractures, des divisions, on pourra en reparler, mais très largement, pour les sunnites, le chiisme, c'est un instrument d'influence de l'Iran, et c'est vrai que ça l'est très largement.
Quelle fracture pour le monde chiite, Laurence Touer?
Alors, depuis, on va dire, grosso modo, la fin des années 1980, c'est-à-dire la fin de la guerre entre l'Iran et l'Irak, notamment dans la mouvance islamiste chiite, eh bien, un certain nombre de voix contestent le leadership politique iranien, et puis aussi le modèle politique qui est incarné par l'Iran, c'est-à-dire un modèle théocratique dans lequel c'est un clerc qui est le chef de l'État. C'est un modèle qui ne fait plus du tout consensus, qui est une ligne de fracture idéologique majeure au sein de la mouvance islamiste chiite, mais plus largement aussi au sein du monde chiite. Et il faut rappeler que la principale autorité religieuse chiite aujourd'hui, Ali Sistani, donc basée en Irak à Najaf, est absolument contre l'idée que les clercs doivent gouverner l'État.
Sophie Bessis.
Je voulais dire pour une conséquence de cette guerre de 2003 en Irak dont vous parliez en rappelant l'arrestation de Saddam Hussein, c'est que l'Iran est un adversaire emblématique des États-Unis depuis la chute du Shah d'Iran et l'instauration de la République islamique en 1979. Or, la guerre de 2003, menée par les États-Unis, a livré l'Irak à l'Iran. C'est-à-dire que elle a été totalement pour la politique américaine dans la région, a été totalement contre-productive dans la mesure où le raisonnement extrêmement simpliste de l'administration américaine de l'époque, ou plutôt des conseillers de la présidence Bush à l'époque, c'était de dire, puisque Saddam Hussein était sunnite, et puisque les sunnites gouvernaient l'Irak, eh bien, nous allons exclure les sunnites de la vie politique irakienne et donner l'Irak à la majorité chiite. Moyennant quoi, cette marginalisation des sunnites, marginalisation du clan Saddam Hussein, etc., a été une des raisons de la création de Daesh. Une des raisons immédiates de la création de Daesh.
Ce sentiment de frustration pour les sunnites est généralement interprété comme étant à l'origine notamment de Daesh, avec un sentiment qui explique aussi pourquoi Daesh a été parfois accueilli avec tant de ménagement et parfois même du soulagement, il faut le dire.
Tout à fait, tout à fait. Vous savez très bien que, on le sait, on l'a dit à plusieurs reprises, que cette organisation État islamique, pour employer la formulation française, n'aurait pas conquis en 2014 aussi rapidement des territoires aussi étendus si ce ne sont pas les officiers de l'armée irakienne qui avait mené cette guerre-là et qui connaissait évidemment par cœur le terrain. Et vous savez qu'une des premières décisions du proconsul Brenner en 2003 a été de démanteler l'armée irakienne et le parti Baas. C'est-à-dire donc effectivement cette frustration des élites sunnites et des tribus qui leur sont apparentées a balisé le terrain pour l'organisation État islamique. Et un petit mot, si vous le permettez, ce qui permet de relativiser, je pense que vous serez d'accord avec moi, la dimension religieuse de cette fracture sunnisme-chiite, qui est une dimension beaucoup plus aujourd'hui politique, géopolitique et de lutte d'influence entre des tentations hégémoniques totalement opposées qu'une lutte sur le plan théologique et religieux.
Laurence Louer.
Oui, juste pour revenir à 2003, il faut aussi rappeler que 2003, c'est la conséquence du 11 septembre 2001.
Bien sûr.
Et qui marque quand même un changement dans la manière dont les États-Unis, mais aussi largement en Europe, ont voit les sunnites et les chiites. Hein, depuis la révolution de 1979 en Iran, les chiites étaient considérés comme intrinsèquement révolutionnaires, fanatiques, radicaux, et que c'était au fond les sunnites les modérés. Et en fait, la découverte du salafisme, du wahhabisme, du djihadisme change complètement cette perspective, ce qui explique la décision aussi des Américains de mettre les chiites au pouvoir en Irak, parce que au fond, ils se focalisent sur l'ayatollah Ali Sistani, qui représente un chiisme entre guillemets modéré, anti-iranien dans ses fondements, et donc ils escomptent aussi qu'au fond, ce chiisme irakien modéré pourra aussi contrebalancer le chiisme radical révolutionnaire iranien.
Aujourd'hui, l'Iran est une puissance qui semble mener la danse. Si on prend par exemple la Syrie, il y a trois pays qui sont aujourd'hui aux manettes principalement. Il y a la Russie, la Turquie et donc l'Iran. C'est devenu la puissance régionale avec une arme extrêmement puissante qui est le Hezbollah. Le Hezbollah étant là aussi une force dominante sur la région et c'est encore une fois un échec arabe, Laurence Louer.
Oui, tout à fait. Alors je pense que les Iraniens sont les grands vainqueurs du conflit syrien tel qu'il est en train de commencer à se résoudre, si vous voulez, ou à se terminer. Il est clair que désormais, les Iraniens ont quand même des zones d'influence très consolidées dans le monde arabe. Donc l'alliance avec la Syrie persiste. Ils sont très présents en Irak. Le Liban est sous la domination du Hezbollah depuis longtemps. Et le Hezbollah, comment dire, est un modèle qui s'exporte très bien, notamment au Yémen.
Hein. Pourquoi ? Parce qu'il faut expliquer ce qu'est le Hezbollah, qui était jadis perçu comme une organisation terroriste qui a des activités autres. Dites-nous un peu en quoi consiste le secret du Hezbollah.
Alors, le Hezbollah fait école parce que ça fonctionne. Il est efficace. Donc au départ, c'est une milice chiite qui est née au Liban au cours de la guerre civile et dont l'objectif était d'expulser les troupes israéliennes du Liban. Hein, et donc qui a fini par reprendre à son compte la résistance nationale libanaise à l'occupation israélienne et qui... au lendemain de la guerre civile, donc en 1990, s'est transformé en un véritable parti politique avec des députés plutôt efficaces dans son administration locale de certaines municipalités qui l'a conquise. Et puis, surtout, c'est une organisation qui a permis à la communauté chiite de sortir de sa marginalisation politique historique en devenant un acteur central du champ politique libanais. Et donc, sa réputation et sa bonne image, hein, jusqu'il y a encore quelques années, dépassait très largement le monde chiite, il faut le dire, puisque notamment suite à la guerre de 33 jours contre Israël en 2006, le Hezbollah est devenu extrêmement populaire dans la rue sunnite, entre guillemets. Et c'est pour ça aussi que, au fond, c'est perçu comme un acteur si dangereux, notamment par l'Arabie Saoudite, hein, parce que l'Arabie comprend bien que c'est, au fond, une organisation qui a la possibilité de transcender aussi cette barrière confessionnelle entre sunnites et chiites en reprenant à son compte l'anti-israélisme, la défense de la cause palestinienne d'une manière générale.
Sophie Bessis, là-dessus justement, est-ce que la volonté donc du Hezbollah est de réunir les masses, de les réunir contre Israël, et Israël et la Palestine, c'est le but ultime ou bien c'est juste un moyen d'asseoir son pouvoir?
Je vais y répondre, mais je voudrais revenir un tout petit peu en arrière, si vous le permettez. L'émergence du Hezbollah n'est pas la première émergence chiite au Liban. Vous aviez le parti Amal pendant la guerre civile et après, qui a été la première expression politique des chiites du Liban. Et ce qui me semble très intéressant, c'est que le mouvement Amal, le parti Amal, était un mouvement séculier. Et qu'on assiste, le passage de témoins chez les chiites libanais de Amal à Hezbollah est une des nombreuses illustrations de la confessionnalisation absolue des problématiques politiques et géopolitiques dans la région, me semblait-il. Et donc maintenant, effectivement, c'est le Hezbollah qui domine la vie politique libanaise.
Sur la question israélienne,
sur la question israélienne, bien entendu, le Hezbollah a tiré sa légitimité, une grande partie de sa légitimité, de son combat contre l'invasion du Liban, bien évidemment, par Israël, et dans sa rhétorique anti-israélienne, qui est extrêmement populaire au Liban, ce que l'on peut comprendre dans la mesure où c'est un pays frontalier de l'État d'Israël, qui a été victime de nombreuses interventions israéliennes. Aujourd'hui, je pense que dans la région, on commence à avoir davantage y compris au Liban d'ailleurs, davantage peur du Hezbollah et qu'il a perdu en popularité dans une partie de l'opinion parce qu'il sert de relais à l'influence iranienne qui prend, comme vous l'avez dit, de plus en plus d'importance dans la région. Cela dit, cette influence iranienne, il faut en mesurer la portée à long terme, me semble-t-il, parce que dans le début, non pas de solution, effectivement, comme vous le disiez, à la guerre de Syrie, mais de fin de la guerre de Syrie. Et cette fin n'est pas forcément une solution.
Quelle différence vous faites?
Parce que je crois que cette fin autoritaire qui se dessine peut-être dans le processus d'Astana, sous la houlette de la Russie, essentiellement sous la houlette politique de la Russie, ne va résoudre aucun des problèmes de la Syrie. On ne sait pas encore comment ça va se terminer, mais ne résoudra aucun des problèmes. Et c'est la raison pour laquelle on pourrait penser que le Moyen-Orient actuel, le monde arabe actuel, n'est pas arrivé à la fin de son processus de décomposition et qu'on peut assister à une décomposition, un processus de composition qui...
Avec des lignes de fracture où alors? Pour la Syrie, en Irak?
Confessionnel, bien sûr. C'est-à-dire que vous savez très bien qu'il y a, parmi les analystes, certains qui pensent que on va assister à un éclatement, à une fragmentation du Moyen-Orient, de la même façon... de façon analogue, on va dire, pas de la même façon, qu'on a assisté à une fragmentation des Balkans après la chute du mur de Berlin, après la fin de l'Union soviétique.
On continue à en parler aux environs de 8h20. Sophie Bessis, votre livre La double impasse est publié à La Découverte et le vôtre, Laurence Louer, Sunnite et Chiite, histoire politique d'une discorde, est publié aux éditions du Seuil. On évoquera aux environs de 8h20 la manière dont la politique étrangère américaine influe là aussi sur la situation compliquée du monde arabe.